Vous écoutez
RMC.
Mardi 30 juin,
l'info sur RMC.
Il est 7h, merci d'être là sur RMC. RMC Découverte, Céline Kallmann vous donne les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Une victoire pour les antinucléaires, un déchirement pour les salariés après 43 ans de service. Fessenheim ne fonctionne plus depuis hier soir, place maintenant au démantèlement qui va durer près de 20 ans. Du verre et des vélos, le futur maire de Lyon, Grégory Doucet, veut faire de sa ville un modèle de gestion écologique. Les cyclistes l'attendent au tournant. La contre-attaque du couple Fillon qui va faire appel de sa condamnation, 2 ans ferme à l'encontre de l'ancien Premier ministre. Il est 7h, bienvenue sur RMC. C'était la doyenne des centrales nucléaires françaises. Depuis hier soir, 23h30, le second réacteur de Fessenheim a été débranché du réseau électrique national. Les machines ne ronronneront plus. Les salariés voient leur vie chamboulée. 160 des 650 agents vont partir cet été, rejoindre d'autres unités de production. La page, pour ceux qui restent, ne sera pas facile à tourner. Le reportage de l'envoyé spécial de RMC à Fessenheim dans le Haut-Rhin, Nicolas Trédeau.
Le portail de la centrale se referme lourdement derrière Frédéric, opérateur EDF, les lèvres pincées par l'émotion en sortant de l'opération de débranchement du dernier réacteur.
On aurait entendu les mouches voler en fait. Rester concentré sur ce qu'on fait, c'est ce qui permet de supporter le, on va dire, l'insupportable. C'est un gros gâchis quoi. Derrière, bah, il y aura pas mal de mutations aussi à faire. Je fais partie de cela. Ça fait quand même 25 ans que je travaille là-dedans. Donc c'est aussi un déchirement de voir quitter l'Alsace et de voir... repartir sur d'autres sites.
Plus d'une centaine de salariés feront leur carton cet été, regrette Alain Besserer. Ce délégué syndical doit rester avec d'autres agents à Fessenheim pour évacuer le combustible, abattu par le silence du réacteur mis à l'arrêt.
Ils nous ont tués. C'est l'heure du deuil. Quand on va revenir de vacances, le bureau du collègue à côté, il n'y a plus personne, il n'est plus là. Ça va être terrible. Et après, on pourra véritablement tourner la page d'une manière complète. Mais ça va encore durer 3 ans.
En 2023, il devra trouver une formation et un poste en Alsace ou plus loin, car seulement 60 agents EDF resteront alors sur le site pour déconstruire toutes les installations.
Et pendant que la centrale de Fessenheim vivait ses dernières heures, Emmanuel Macron rassemblait les 150 citoyens de la Convention Climat dans le jardin de l'Élysée. Exit d'emblée 3 des 149 mesures, la limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute, la taxation de 4% des dividendes pour financer la transition écologique et enfin la modification de la Constitution. Les grandes ONG environnementales sont partagées sur les réponses du chef de l'État et attendent toujours un virage vert. Virage qui a été pris dans de nombreuses villes lors du second tour des municipales dimanche et notamment à Lyon. Grégory Doucet, futur maire Europe Écologie Les Verts, qui a recueilli 52,6% des voix dimanche. Grégory Doucet qui ne veut pas perdre de temps. Il veut des mesures concrètes très rapidement. Le vélo est l'une de ses priorités. Les cyclistes lyonnais attendent beaucoup des futurs aménagements. Romain Cluzel.
Pendant son trajet quotidien entre Villeurbanne et Lyon, Charlotte a parfois des difficultés à circuler à vélo.
Ah ouais, c'est compliqué. Parfois, c'est vrai qu'il y a des pistes cyclables, elles s'arrêtent d'un coup et on se retrouve en plein milieu de la circulation. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être dangereux.
Alors l'élection d'un maire écologiste, c'est une excellente nouvelle pour cette chargée de communication.
Très contente, ouais. Je trouve que c'est très encourageant. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus de voies cyclables qui vont se développer.
Des nouvelles pistes cyclables, Grégory Doucet en a promis 450 km dans toute la métropole. Un engagement qu'attend de pied ferme Leslie Agabriel de l'association La Ville à Vélo.
On a de l'espoir, oui. Après, effectivement, on attend de voir la confrontation à la réalité, ce que ça va donner. Il faudra faire preuve de courage politique.
Car ce plan pourrait fortement réduire la place de la voiture à Lyon. Une inquiétude pour Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club.
Quand on entend une ville avec 100% marchable et 100% cyclable, il y a une exclusion de la voiture. Et au bout d'un moment, les personnes qui habitent un petit peu plus loin vont se dire « Ah non, on ne va pas à Lyon, ça coûte cher pour se garer, on ne peut pas circuler ». Attention de ne pas fermer la ville à l'extérieur.
Il demande aux nouveaux élus de Lyon une période d'essai des prochaines pistes cyclables pour mesurer l'impact sur la circulation automobile.
RMC 7h04, il a fait appel de son jugement dans la foulée. François Fillon déclaré coupable et lourdement condamné hier pour détournement de fonds publics à but de biens sociaux. L'ancien Premier ministre a écopé de 5 ans de prison, dont 2 fermes. Sa femme et son ancien suppléant condamné à du sursis. Pour maître Antonin Lévy, avocat de François Fillon, il dénonce le traitement d'exception de son client.
La décision était bien sûr sévère. Elle suit en totalité les réquisitions du ministère public. Et c'est peut-être avec une forme de préavis que la décision a été accueillie par François Fillon. Il n'a eu qu'un seul mot, il m'a dit « faites appel ». Je dénonce le traitement d'exception. La justice doit être la même pour toutes. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est que les hommes politiques ne sont certainement pas au-dessus des lois, ils doivent être assujettis de la même manière à la loi que tous, mais ils n'ont pas moins de droits que les autres.
Maître Antonin Lévy qui sera dans ce
oui,
studio.
Oui, qui sera mon invité tout à l'heure à 7h40.
Pour répondre à vos questions. 8h30, c'est Bruno Le Maire qui sera votre invité sur RMC BFM TV, le ministre de l'économie qui a présenté hier les contours d'un vaste plan pour aider les indépendants, artisans, commerçants de centre-ville, des petits commerces qui ont particulièrement souffert pendant la crise du Covid-19 et c'est toujours le cas puisque la reprise est loin d'être évidente. Ces aides devraient leur permettre de tenir encore, Victor Joannin.
Premier enjeu, la trésorerie de ces petites entreprises sorties affaiblies du confinement. Bercy met sur la table 900 millions d'euros d'aides supplémentaires en annulant certaines cotisations sociales et en prolongeant le fonds de solidarité pour le mois de juin. L'État va aussi acheter et rénover 6000 boutiques pour les proposer à un loyer modeste aux commerçants et ainsi redynamiser les centres-villes. Mais le gouvernement veut aussi aider les artisans et les commerçants à s'adapter au monde d'après. Pendant le confinement, ceux qui ont réussi à sauver les meubles sont ceux qui proposaient de la vente en ligne ou du click and collect. Bercy va donc dégager une enveloppe de 750 millions d'euros de prêts pour que les allergiques à l'ordinateur se forment et bénéficient d'un petit coup de pouce financier afin de développer des outils numériques et ainsi attirer de nouveaux clients.
En Grande-Bretagne, décision radicale à Leicester en raison d'une flambée de nouveaux cas de Covid. Tous les commerces qui ne sont pas essentiels sont fermés à partir d'aujourd'hui. Ils avaient rouvert il y a 2 semaines seulement. Les écoles fermeront aussi après-demain. La pandémie de Covid-19 qui est loin d'être finie et qui s'accélère, prévient ce matin l'Organisation Mondiale de la Santé. 2 seuils ont été franchis. Le cap des 500 000 morts dans le monde et les 10 millions de cas positifs. Écoutez le directeur de l'OMS.
We all want this.
Nous voulons tous que cela se termine. Nous voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c'est loin d'être fini. Nous pouvons mieux combattre le virus si nous savons tout sur le virus, y compris comment il a commencé. Nous enverrons une équipe en Chine la semaine prochaine et nous espérons que cela nous permettra de comprendre comment le virus a commencé et ce que nous pouvons faire à l'avenir pour nous préparer.
We can do for the future.
Et puis aux États-Unis, le comté de Los Angeles a annoncé notamment la fermeture temporaire de ses plages le week-end prochain, férié dans le pays. L'image de la nuit, justement, aux États-Unis, c'est la première comparution des 4 policiers impliqués dans le meurtre de George Floyd. Le suspect principal, Derek Chauvin, inculpé de meurtre pour avoir asphyxié l'Afro-Américain de 46 ans, a comparu par vidéo depuis sa prison de haute sécurité, tenue orange et visage masqué. Un juge espère pouvoir entamer le procès le 8 mars prochain. En Allemagne, c'est une affaire de pédophilie hors norme qui secoue le pays. 30 000 personnes sont visées dans l'ouest de l'Allemagne. Donc un réseau de pédocriminalité a été démantelé la semaine dernière et l'enquête est en train de prendre une autre ampleur. Marie Monnier.
Dans le viseur de la justice allemande, les destinataires de ces vidéos pédopornographiques et plus largement tous ceux qui participaient à ces groupes de discussion en ligne. Une enquête tentaculaire qui a débuté à l'automne de l'année dernière quand des policiers canadiens alertent leurs homologues allemands. Des contenus pédopornographiques en provenance d'une petite ville proche de Cologne circulent sur Internet. Un homme de 42 ans est interpellé, mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là et remontent la piste de plusieurs milliers de participants qui partageaient leurs méfaits sur Internet. Pour l'heure, au moins 40 victimes ont été identifiées par les autorités dans ce qui pourrait être l'un des plus gros scandales de pédophilie sur le sol allemand.
RMC, 7h09, loterie, paris, poker, moins de Français ont joué aux jeux d'argent et de hasard en 2019 si l'on compare à 2014. C'est le résultat d'une étude de Santé publique France qui est publiée ce matin. Il y a 5 ans, donc plus de la moitié des Français jouaient au moins une fois dans l'année. Ils ne sont plus que 47% aujourd'hui. Maxime Brandstatter, en revanche, ceux qui jouent le font de manière frénétique et ils sont plus nombreux ceux-là.
Et ils sont 1 340 000 Français à avoir une pratique dite problématique. Ils représentent à peine 6% des joueurs, mais ils génèrent à eux seuls plus de 38% du chiffre d'affaires du secteur. Alors il y a 2 catégories. La première, 1 million d'entre eux sont à risque modéré. Ils dépensent au-dessus de leurs moyens, mais ne sont plus dans une démarche ludique. La deuxième catégorie englobe 340 000 joueurs. Alors eux ont totalement perdu le contrôle. Ils sont addicts dans le déni et ont besoin d'être soignés. Dans ces pratiques, les paris sportifs sont surreprésentés. 1/4 des joueurs problématiques misent sur des sports comme le football ou les courses hippiques. L'association SOS Joueurs explique que les parieurs sportifs misent sans s'inquiéter de leurs pertes, persuadés de leur prétendue expertise leur permettra de se refaire. L'association demande de réglementer les publicités sur les paris sportifs au même titre que l'alcool et le tabac, voire de les interdire.
Les paris sportifs n'ont pas pu beaucoup jouer ces derniers mois.
Ces derniers temps. Mais c'est vrai que quand on pratique le pari sportif, on se croit expert, on pense pense qu'on va toujours trouver le bon résultat et on ne le trouve jamais. Enfin, pas jamais. Pas souvent, dans tous les cas. Et on perd beaucoup d'argent parce que là, il y a vraiment une addiction. Il est quelle heure? Il est 7h10. Merci d'être avec nous. Merci, on vous retrouve tout à l'heure, Céline. Allez, vos vacances d'été, à quoi ressembleront vos vacances d'été? Ben, Quentin Vinet va tout nous dire dans un instant. Christiane Lambert est avec nous. Bonjour, Christiane Lambert. Merci, vous êtes présidente de la FNSEA. Nous allons parler de cette convention citoyenne et de l'agriculture, puisqu'il y a des mesures demandées par les citoyens de cette convention citoyenne. Emmanuel Macron a dit qu'il allait reprendre toutes les mesures, enfin 146 sur 149, nous allons détailler pour l'agriculture. Quentin Vinet va venir nous rejoindre. André, lui, est dans le Jura, Saint-Claude. Bonjour André.
Bonjour Jean-Jacques.
Bon, le tourisme alors André, comment... D'abord bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Hein.
Alors Jean-Jacques, oui. Je vais te dire quelque chose.
Vas-y,
je
vais
te tutoyer Jean-Jacques.
Oui, tu peux.
Parce que je suis 100% solidaire avec vous. Et ce qui vous arrive, c'est complètement nul et anormal. Et je suis aussi président du comité de défense et de soutien de l'hôpital de Saint-Claude. Je défends la maternité et la chirurgie qui ont été fermées. Donc je suis 100% avec vous, les gars.
Eh ben merci, voilà. Merci André. Dis-moi André, tu me tutoies, tu regardes la télé ou t'écoutes la radio le matin?
Ah, le matin, dès que je suis hôtelier restaurateur, donc dès que je me lève, avant d'aller au petit déjeuner, j'écoute, je regarde la télévision et après c'est sur la radio.
Et après c'est sur la radio.
Ben Saint-Claude, oui. C'est compliqué de capter ça.
Capter RMC à Saint-Claude, c'est un exploit. Hein. André, c'est d'ailleurs le grand problème d'RMC depuis tant d'années, le manque de fréquence. Mais enfin, je ne vais pas revenir là-dessus.
Puis on a une cathédrale qui est un toit en cuivre, donc je pense que ça gêne pas mal les ondes.
Bon, André, tu es hôtelier à Saint-Claude. Est-ce que tu as vu revenir les clients ou pas?
Ah ben Jean-Jacques, si tu m'en trouves, envoilé. Hein. Non. Franchement, non. Et nous, si tu veux, on a une grosse zone touristique d'été.
Oui.
Je suis copain aussi avec le gérant du camping et c'est très, 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 très compliqué. Alors l'autre jour, j'avais un couple de motards allemands, parce qu'on est relais motards, tu vois. On est relais motards, je fais de la moto aussi. Et franchement, j'ai discuté avec les Allemands et ils nous disent qu'on leur raconte la même chose chez eux. Rester en Allemagne pour faire travailler l'Allemagne, quoi. Mmh. Voilà. Donc je pense rester en Italie, faire travailler l'Italie, et ainsi de suite.
Mais les Français vont faire travailler les Français quand même. Moi je vois, dans tous les cas dans mes Cévennes, il y a un afflux. Il y avait un monde fou ce week-end, j'étais dans les Cévennes, un monde fou, et les réservations, quand malheureusement il y a une offre touristique insuffisante dans mes Cévennes, mais tout est plein déjà.
Alors,
ou presque plein.
Est-ce que l'hôtellerie est bien visée, quoi?
L'hôtellerie, oui, évidemment. Alors, l'hôtellerie. Pourtant, André, toi, tu peux accueillir les clients en toute sécurité. Il n'y a pas de souci, hein.
Nous, à l'entrée de l'hôtel, on a port du masque obligatoire.
Oui.
Nous sommes équipés de masques et de visières agréées Covid-19. Les chambres, les femmes de chambre sont équipées et ont le processus de nettoyage de la chambre. Hein, au service, au restaurant, on est équipé de masques. Donc tu vois, mais c'est vachement compliqué quoi. Mais moi je pense que les gens ont peur.
Les gens ont peur. Bon. Ben merci André, tu nous tiens au courant hein.
Ouais,
enfin, moi je pars le 10, mais avant le 10 tu nous tiens au courant hein.
Tu pars le 10 en vacances?
Oui, je pars le 10 en vacances, puis tu me retrouveras pas à la rentrée. Hein. Je te dis tout de suite, le matin, non. Non, mais on en parlera plus dans la journée, tu verras, il y a un communiqué qui va être publié.
Merde.
Voilà, André, passe une bonne journée.
Bon, salut à toi, salut à toute l'équipe. Hein.
Salut André, salut. Il est 7h14. Alors, à quoi ressembleront vos vacances cet été? Vous venez nous le dire ce matin. Visiblement, les Français ont envie de nature. On va en parler avec Christiane Lambert.
Amusé, entre guillemets, ce matin, à chercher des destinations, des vacances écologiques, durables, sur des sites spécialisés. J'ai trouvé un moulin garanti sans pesticides, un camping qui respecte la nature, une cabane pour observer les étoiles, encore une bergerie avec toilettes sèches. Si je vous dis tout ça, c'est parce que 67% des Français disent qu'ils ressentent le besoin d'être en pleine nature cet été, selon l'Institut YouGov. Surtout les jeunes, surtout les parents, ça leur a manqué pendant le confinement. Ils assurent que la nature, c'est le critère numéro un cet été. La mer devant la montagne, la campagne et bien sûr loin des villes.
Christiane Lambert, bonjour. Vous l'avez constaté, les agriculteurs vont voir arriver les touristes, les vacanciers. Les touristes français.
En tout cas, les touristes sont attendus à la campagne.
Oui.
Il y a beaucoup, beaucoup de réseaux de réservation qui se sont réactivés après le déconfinement.
Oui.
Le réseau Bienvenue à la ferme, il y a toutes sortes de plateformes qui existent, il ne faut pas hésiter. Et ce besoin de campagne, tant mieux. Mais J'ai envie de dire un mais.
Ah.
Je ne suis parisienne que 3 jours et demi par semaine, mais quand je passe aux Invalides et que je vois le matin, à 6h30 du matin, tous les détritus sur la pelouse, avec des emballages de bière, de sandwich, etc., j'ai pas envie qu'ils aient les mêmes pratiques quand ils vont venir chez nous à la campagne. Il y a des poubelles partout, il y a des règles à respecter, et il n'y a surtout pas des éboueurs pour ramasser le lendemain matin à 6h du matin. Mmh. Donc je pense que le respect aussi, c'est quelque chose d'important.
Les agriculteurs ne vont...
Mais ça commence aussi par les comportements du quotidien.
Vous avez raison, l'environnement commence là et les agriculteurs ne vont pas se transformer en éboueurs, que les choses soient claires, pour nettoyer les déchets des gens des villes. On est d'accord.
Vous savez qu'il y a mes amis de Seine-et-Marne qui ont lancé un hashtag, je sais plus comment il s'appelle, tdécharge.com, parce que souvent le matin ils trouvent dans leur champ des détritus, de plaques au plâtre, de seaux de peinture, de congélateurs. Chacun s'imagine qu'on peut balancer n'importe quoi dans la campagne. Je crois que ce qui est intéressant avec la convention citoyenne, on y vient, c'est qu'il y a une prise de conscience, c'est bien. Mais c'est aussi et d'abord dans les gestes du quotidien. J'entendais ce matin, sûrement sur votre onde, que 9 Français sur 10 veulent acheter français. C'est bien.
Oui.
Pour acheter français, il faut accepter aussi que ce soit un petit peu plus cher. C'est-à-dire que ce n'est pas le t-shirt chinois ou bangladesh qui vaut 1,50€, parce que s'il a été fait en France, c'est qu'il sera forcément un petit peu plus cher. Donc je pense qu'il y a une
cohérence. À moins qu'on baisse les impôts sur la production.
Alors on est d'accord.
Alors là, je vais en parler à Bruno Le Maire tout à l'heure. Il faut baisser les impôts sur la production si on veut relocaliser en France.
C'est une demande que nous avons beaucoup portée avec les coopératives agricoles et l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires. Nous avons en France les impôts de production parmi les plus élevés. Et c'est pour ça que nous sommes contraints d'avoir des prix plus élevés, parce que nous sommes beaucoup taxés. Règle premium, taxes plus élevées, on ne peut pas produire au tarif de l'Inde, de l'Asie ou de même des pays d'Afrique du Nord. C'est un tout cohérent. Donc lorsqu'on parle de relocalisation de la production, qu'il s'agisse de médicaments, qu'il s'agisse de voitures, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, il faut aussi qu'il y ait une citoyenneté de l'achat, et ça je pense que c'est très important.
Bien, Christiane Lambert, regardons un peu les propositions de la Convention citoyenne concernant l'agriculture. Emmanuel Macron ayant dit qu'il reprendrait toutes ses propositions, enfin 146 sur 149, mais toutes les propositions concernant l'agriculture. Alors atteindre 50% d'exploitation en agroécologie en 2040, dans 20 ans, c'est possible ou pas ?
La définition de l'agroécologie telle qu'elle existe dans la loi d'avenir, elle dit que c'est une agriculture qui est à la fois respectueuse de la planète, qui adapte ses modes de production et qui est compétitive. Nous sommes tous capables d'aller vers ce modèle-là, tout comme on va vers la voiture propre avec un grand plan d'investissement et d'adaptation, puis des aides à l'achat de voitures propres. Si on a aussi un accompagnement pour que toutes les exploitations aillent vers l'agroécologie, pas de problème.
Donc un grand plan d'accompagnement pour aller vers l'agroécologie et pour aller vers l'agriculture biologique.
Alors l'agriculture biologique bénéficie déjà de soutien, d'aide à la conversion, d'aide au maintien.
Il y a difficile à toucher, pas toujours, ça prend du temps.
Mais l'État est souvent en retard pour payer, ça, vous avez raison de le souligner.
Un grand classique.
Enfin, les aides existent et elles sont maintenues. Elles existent au plan national, au plan européen. Pour développer l'agroécologie, c'est-à-dire que 50% des agriculteurs puissent y accéder très vite, et je crois que ça permettra aussi plus de résultats, parce que si plus d'agriculteurs verront vers ces pratiques, il y aura de meilleurs résultats pour la planète. Parce que si c'est seulement 10% qui font bien, il n'y aura pas de résultats,
et
ça nous le savons tous. Donc pouvoir s'équiper de matériel, se former, être conseillé. Vous savez, il y a aussi beaucoup de transitions professionnelles, on en a parlé hier... La semaine dernière, chez le président de la République, les syndicats de salariés demandent aussi des transitions professionnelles pour aller vers des voitures propres, des avions plus propres, de l'électronique embarquée partout. Il faut des transitions professionnelles. Ouais. Nous en avons besoin aussi en agriculture. Ouais. Le digital permet de faire des vrais progrès en surveillant mieux, observant nos plantes et intervenant avec précision pour réduire les produits phytosanitaires. Nous avons besoin de davantage de capacité d'observer et d'être conseillé. Mmh. Alors par contre, il y a des mesures positives. C'est-à-dire lorsqu'on dit qu'il faut bétonner moins, c'est-à-dire garder les espaces agricoles, garder des ceintures vertes autour des villes, une négociation plus équilibrée pour les prix des produits agricoles, par contre 50% de produits bio, là je pense que comme on est aujourd'hui à 7,5%, le gouvernement a fixé un objectif à 15%, qui est déjà un objectif ambitieux parce qu'il faudra que les Français suivent en termes d'achat. 50%, ça me paraît difficilement accessible.
Bien, CETA, Mercosur, le CETA, le président de la République pourrait... Il dit, ce n'est pas tabou.
Oui.
Et ça, c'est une petite avancée. Mercosur, pour l'instant, c'est bloqué.
Rappelez-vous le 23 juillet l'année dernière, vous m'aviez invité pour parler justement du CETA, dont la ratification arrivait à l'Assemblée nationale.
Exact.
Et nous avions dit, n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas chez nous. oui. puisque les conditions de production sont totalement différentes.
C'est un traité commercial avec le Canada.
Avec le Canada, voilà. Oui. Et le Mercosur, c'est avec l'Amérique
du Sud.
Et lorsqu'ils disent qu'il faut mettre des critères pour respecter l'accord de Paris dans les accords commerciaux, nous disons oui. Une empreinte carbone des produits à l'entrée des frontières,
oui.
nous disons oui. On ne peut pas avoir des règles plus en France, en Europe, et que notre territoire soit une passoire avec des produits qui ne respectent rien.
Alors Christiane Lambert, j'ai vu une autre mesure, transformer l'attribution des aides à l'hectare de la PAC vers des aides à l'actif agricole. Alors c'est quoi ça?
Alors, ça c'est un sujet qui est très technique, je vois que vous froncez oui. le sourcil pour le
comprendre. Oui, parce que je me mets à la place de l'auditeur, hein. Il ne comprend rien. Là.
Les aides sont aujourd'hui oui. versées en fonction des hectares. Alors, il y a eu un correctif depuis Stéphane Le Foll qui fait que les premiers hectares sont davantage dotés pour justement tenir compte des petites exploitations
Bien
et
sûr.
Des actifs. Mais là où il y a un risque, c'est que dans les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, où il y a beaucoup, beaucoup plus d'actifs, jusqu'à 20% d'actifs, ça sera un déménagement des soutiens de la France vers les pays de l'Est. Donc oui, il faut soutenir l'emploi, les actifs, mais il faut faire attention à une mesure qui pourrait être en trompe-l'œil et qui priverait la France, nous avons fait les estimations, de près de 3 milliards d'euros d'aide de la PAC. Donc oui, le soutien de l'emploi, mais faisons attention aux mesures emblématiques et à leur application.
Et j'ai une dernière question, c'est une volonté aussi des citoyens de cette convention, c'est que les animaux français que vous élevez mangent des produits français, mangent des protéines végétales produites en France.
Ça, c'est bien et ça fait des années que nous y travaillons.
On ne va pas importer du soja moins, importons moins de soja venu de chez l'Amérique du Sud d'ailleurs.
On est maillot jaune des protéines nationales. Pourquoi ? Parce qu'on a développé les biocarburants. Avec le colza, on fait du carburant, mais on fait aussi du tourteau de colza. Donc on a moins besoin, nous, de tourteau de soja que les autres pays. Bon. Nous sommes autonomes à 55% en protéines, quand l'Europe est autonome seulement à 30%.
Bon.
Un plan protéines est sur la table depuis 20 ans, il n'est jamais sorti. Donc maintenant, passons aux travaux pratiques. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Ce plan protéines, il doit sortir. Et nous sommes vraiment demandeurs de ce plan protéines.
Bien, ben merci Christiane Lambert. Merci vraiment. Vous êtes positive, ça fait du bien. Il faut avancer. 7h22, vous êtes sur RMC, RMC Découverte. Qu'allons-nous faire alors?
On va aller faire un tour du côté des salles de sport avec Marie Dupin. Vous savez qu'elles ont pu rouvrir au début du mois, mais comment ça se passe et comment faire si je veux le remboursement de la période de confinement? Vous saurez tout avec Marie Dupin dans un instant.
RMC. Dupin quotidien.
Allez, Dupin quotidien avec Marie Dupin qui prépare ses vacances. Marie, ça y est, les vacances et je.
Ça commence à se réserver doucement.
Bon, Marie Dupin, il est à nouveau possible de faire du sport. Enfin, on pouvait toujours faire du sport, hein, dehors. Hein.
Oui.
Bah, vous sport, parlez des salles, là, des si salles, j'ai bien
voilà,
compris.
Des
gymnases, sport, des voilà. salles de sport. Oui. Alors, allez-y. Mais est-ce que. Oui, mais attendez, pendant, elles ont été fermées quoi, 3-4 mois?
Pas mal.
Mais alors, est-ce qu'on peut se faire rembourser?
Premier cas de figure, d'abord vous aviez payé une licence sportive pour toute l'année scolaire, hein, par exemple pour des cours de judo, ou de danse, ou de tennis, ou d'équitation pour vos enfants, et les cours ne reprennent pas avant septembre, ou alors les cours ont repris juste une semaine ou deux. Pour autant, vous ne pouvez pas obtenir de remboursement, puisqu'une licence n'est pas un abonnement, mais une adhésion à une fédération sportive. Ouais. C'est donc pas considéré comme une prestation commerciale. Idem si vous avez versé une cotisation à une association sportive, une association de foot par exemple, là encore, c'est pas un abonnement. Mais une adhésion, et donc l'adhésion ne s'est pas arrêtée pendant le confinement, et donc pas de remboursement
pas
possible.
De remboursement. Et les clubs de sport
là c'est différent, évidemment vous n'allez pas payer si votre club était fermé. Normalement les clubs ont dû automatiquement suspendre les prélèvements pendant le confinement, mais ils n'ont pas tous été exemplaires, hein, donc essayez un peu de vérifier si vous n'avez pas été prélevé.
Ou prolonger son abonnement peut-être.
Voilà, alors certains clubs proposent de prolonger l'abonnement, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez tout à fait dire non, moi je souhaite être remboursé pour la période de fermeture, et ils sont obligés de vous rembourser.
Et si on n'a pas envie de retourner au club de sport?
C'est vrai que les clubs de sport ont mis en place des mesures qui peuvent être un peu contraignantes. Accès seulement sur rendez-vous, des créneaux de 1 heure maxi, des cours collectifs restreints, plus de vestiaires. Donc si ces contraintes sont trop lourdes pour vous, que vous estimez qu'elles vous empêchent de profiter de la salle correctement, vous pouvez demander une suspension du contrat. Par ailleurs, si vous payez des options qui ne sont plus accessibles, par exemple une option pour les vestiaires, vous ne pouvez plus être facturé pour ça. Donc demandez à être remboursé si ce n'est pas fait automatiquement.
Merci Marie. L'actu des réseaux sociaux maintenant.
RMC.
Charles Magnin. Le verdict dans l'affaire Fillon, très commenté.
Oui, sur les réseaux sociaux. Le jugement, ouais, 5 ans de prison dont 2 fermes dans l'affaire des emplois fictifs hein, de son épouse Pénélope. Mmh. Un jugement dont le couple a fait appel. Et hier, sur Twitter, les soutiens politiques de François Fillon se sont mobilisés. Hein. Sur Twitter, ils dénoncent une décision injuste, une instruction uniquement à charge. Mais beaucoup d'internautes ont également ironisé autour de cette décision de justice. Hein. François Fillon a fini par l'avoir, son mandat de 5 ans pour la France, dit par exemple un internaute. Beaucoup ressortent les tweets du candidat François Fillon, qui dénonçait pêle-mêle le laxisme de la justice, les peines de prison non exécutées ou encore ces Français qui profitent de l'argent public. Autant de déclarations qui prennent un tout autre sens après cette condamnation. Et puis beaucoup font le parallèle avec Patrick Balkany. Selon un internaute, on connaît déjà le prochain épisode. À la fête de la musique l'année prochaine, on devrait voir François Fillon se déhancher sur le tube de l'été.
Aussi, l'avocat de François Fillon est avec nous tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais lui poser la question. Aux États-Unis, un serveur refuse de servir une cliente qui ne porte pas de masque. Les internautes lui apportent massivement leur soutien.
Oui, l'histoire débute dans un café Starbucks de San Diego, Californie, lundi dernier. Lénine, jeune serveur de 22 ans, refuse de servir une cliente qui se présente sans masque à la caisse. La cliente, très en colère, le prend en photo et publie le cliché sur Facebook avec ce commentaire. Voici Lénine qui a refusé de me servir. La prochaine fois, j'appelle les flics, écrit-elle. Mais sa colère va vite se retourner contre elle. En commentaire, les internautes prennent la défense du serveur et vont jusqu'à lancer une cagnotte en ligne. Une cagnotte qui affiche ce matin plus de 96 000 $ de dons pour le serveur. Une histoire qui va plus loin qu'une simple anecdote. Si les internautes se sont mobilisés, c'est parce que la question du port du masque est désormais une question politique aux États-Unis. Donald Trump refuse de le porter en public et se moque de son concurrent démocrate Joe Biden qui le porte systématiquement. Aux États-Unis en ce moment, c'est un peu « dis-moi si tu portes le masque, je te dirai pour qui tu votes ».
Merci Charles, il est 7h30, vous avez voté dimanche en France, vous avez voté écolo peut-être, est-ce que c'est un vote bobo, ce vote écologiste qui s'est exprimé notamment, particulièrement dans les grandes villes? Nicolas Poincaré, bonjour.
Bonjour
Jean-Jacques. Vous allez nous expliquer, nous allons revenir sur ces grandes villes qui vont être dirigées par des hommes et des femmes qui étaient de parfaits inconnus jusqu'à présent.
Oui, c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Oui. Même dans leur ville, parfois, personne ne les connaît. Ce sont des militants. Ils ont gagné dans des villes conservatrices et bourgeoises, comme à Lyon ou à Bordeaux. Ils ont créé la surprise.
Strasbourg, à Tours, à Poitiers, à Annecy, des villes riches.
Voilà. Mais vous l'avez dit, ce sont des villes, c'est la victoire des écolos des villes et des grandes villes, là où on peut se déplacer en vélo, pas la victoire des écolos des champs.
Bien, il est 7h31. Merci. Anaïs, qu'allons-nous
faire ? On en parle avec Charles. Oui. François Fillon, condamné à de la prison ferme pour les emplois fictifs de son épouse, il fait appel. Son avocat, Antonin Lévy, dénonce un jugement extrêmement sévère et il sera avec nous à 7h40.
Et 7h32, Anne-Sophie Balbière est là pour les infos. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Des dizaines de rassemblements prévus aujourd'hui en France. Nouvelle mobilisation des personnels hospitaliers. Ils réclament plus que les 6 milliards 300 millions annoncés par le gouvernement. Le Ségur de la Santé est dans sa dernière ligne droite. Bruno Le Maire, invité d'RMC et de BFM TV dans une heure. On revient dans ce journal sur son plan d'aide pour les commerces de proximité. Le ministre veut préparer les petites entreprises au monde d'après grâce à Internet. Et puis l'après nucléaire à Fessenheim, la plus vieille centrale de France ne produira plus d'électricité. Le second réacteur a été débranché hier soir. RMC 7h32. Leur mobilisation du 16 juin avait été un succès. Les personnels hospitaliers de retour dans la rue, de Lorient à Nancy, de Toulon à Mont-de-Marsan. À 3 jours de la clôture du Ségur de la Santé, les syndicats vont tenter d'obtenir plus que les 6 milliards 300 millions d'euros mis sur la table par le gouvernement. Florian Chevalet.
300 millions d'euros pour revaloriser les salaires, une somme décevante pour Nawel Adouiri, elle est vice-présidente de l'intersyndicale des internes.
C'est au final une centaine d'euros mensuels en brut, c'est ridicule, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a demandé par rapport aux efforts et aux heures passées à l'hôpital. Même avec cette revalorisation-là, on sera pas payé au SMIC horaire.
Déçus, les syndicats restent tout de même à la table des négociations, ils espèrent une augmentation générale de 300 euros net par mois, seule manière, selon Magali, interne en médecine, de garder un hôpital attractif.
Il y a une fuite massive, notamment des personnels paramédicaux qui s'en vont de l'hôpital. On a bien vu que pour soigner correctement les patients, il fallait du personnel à leur chevet, chose que pendant la crise du Covid, on a pu faire parce que tous les autres services tournaient au ralenti. Mais que là, après cette crise, l'hôpital public reste dans un état déplorable et à la dérive.
Les annonces définitives du gouvernement sont attendues la semaine prochaine.
Et Bruno Le Maire, lui, a présenté hier un vaste plan d'aide à destination des indépendants, des artisans, des commerces de proximité, particulièrement en souffrance à cause du confinement. Le gouvernement veut leur permettre de s'adapter au monde d'après. 750 millions d'euros pour que les petits commerces puissent faire leur entrée sur Internet et attirer plus de clients. Certains ont réussi à amortir le choc de la crise grâce au numérique. À Alfortville, dans le Val-de-Marne, Thomas Chupin.
Depuis que son magasin de jeux d'éveil pour enfants a rouvert ses portes, Karine revit, mais le jour de confinement reste un traumatisme.
Là, on vous dit, vous fermez tout. C'est fini, quoi. Enfin, voilà, je vais avoir 50 ans et je viens de perdre 15 ans de ma vie. Je me suis mise à pleurer, ça a été très, très choquant.
4 jours de larmes et puis Karine s'est donc décidée à se mettre au numérique, à exister sur Internet.
L'idée, c'est de faire du click and collect. Je prends les photos et mes enfants m'apprennent à poster sur Facebook et sur Instagram. Et là, premier message. Deuxième message, et ainsi de suite. Et on n'a pas arrêté. On ne partait de rien, et on a quand même réalisé un tiers de notre chiffre d'affaires.
Exemple vertueux, donc, mais il y a un autre genre de petit commerce qui a beaucoup souffert, c'est l'habillement.
On a un taux de digitalisation qui est de l'ordre de 22%.
Éric Mertz est le président de la Fédération nationale de l'habillement. Il a bien conscience que cette période de crise va faire bouger les choses.
Là, le commerçant indépendant a compris que c'était maintenant qu'il fallait qu'il le fasse. C'est tout simplement un enjeu vital parce qu'ils vont être capables de porter leur savoir-faire au-delà du point de vente.
Mais Éric Mertz demande une aide conséquente, bien plus que les 750 millions d'euros promis hier par le ministère de l'Économie.
Et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, sera votre invité à 8h30, Jean-Jacques, sur RMC et BFM TV. Vous reviendrez évidemment avec lui sur le plan environnement annoncé par Emmanuel Macron. Une enveloppe de 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans sera débloquée pour l'écologie. Le président va reprendre 146 des 149 propositions de la Convention pour le climat. 43 ans de service, un démantèlement intégral et inédit qui devrait durer au moins jusqu'à 2040. La plus ancienne centrale nucléaire française a définitivement cessé de fonctionner hier soir. Le second réacteur de Fessenheim dans le Haut-Rhin a été débranché du réseau électrique. Pour les salariés du site, les nerfs sont à fleur de peau. Les émotions sont mélangées, comme pour Patrick, contrôleur de risque pendant près de 40 ans.
Un peu de colère, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. C'est depuis le temps que ça traîne en longueur... Voilà, c'est fait. Ah, c'est pas facile d'arrêter une machine que tu sais pertinemment qu'elle peut continuer à fonctionner. Tout ça parce que le politique a décidé d'arrêter la centrale, quoi. Je pense aux collègues qui sont obligés de partir, de quitter la région pour continuer leur vie. Mais ça fait un crève-cœur quand même de les voir partir, quoi. Et voilà, quoi, fierté d'avoir accompli une page d'histoire, on va dire.
Le couple Fillon fait appel. L'ancien Premier ministre a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 10 ans d'inéligibilité, 3 ans de prison avec sursis pour sa femme dans l'affaire des emplois fictifs. Les principaux arguments de la justice, des manquements au devoir de probité, la volonté de faire primer l'intérêt personnel, Jean-Jacques.
Oui, maître Antonin Lévy nous a rejoint, avocat de François Fillon. Il est avec nous dans 2 minutes jusque... Enfin, 2 minutes, il est quelle heure? 37, oui, 2-3 minutes, juste après la fin de votre journal, Anne-Sophie.
6 policiers placés en garde à vue par des enquêteurs de l'IGPN. Ils font partie de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on leur reproche, Jean-Baptiste Bourgeon ?
Les 6 policiers sont soupçonnés d'avoir racketté des délinquants, notamment des trafiquants de drogue, soupçonnés également de détention et de transport de stupéfiants et de faux en écriture publique. Plusieurs plaintes avaient déjà été déposées contre des agents de cette compagnie de Seine-Saint-Denis, notamment l'été dernier, où lors d'un contrôle d'identité musclé, plusieurs fonctionnaires avaient été placés en garde à vue par l'IGPN pour des violences sur un jeune de 20 ans. Une enquête avait alors été ouverte par la police des polices pour surveiller leurs agents. Le préfet de police a d'ores et déjà promis des sanctions si les faits étaient avérés. Didier Lallemand a également décidé d'engager une réflexion sur la réorganisation du service auquel appartiennent les 6 fonctionnaires actuellement en garde à vue.
Une dernière information à propos du coronavirus. Notez que l'OMS met en garde aujourd'hui. C'est loin d'être fini, ça s'accélère même. Une équipe sera envoyée en Chine la semaine prochaine pour déterminer l'origine de l'épidémie. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé le durcissement du confinement dans la ville de Leicester. Les courses, Anaïs, c'est à Vincennes.
À 18h30, Anne-Sophie, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. La favorite, c'est le numéro 16, Galilea Monet. Outsider, numéro 15, J'aime de Busset.
Bien, il est quelle heure? Il est 7h39. Maître Antonin Lévy est donc avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des avocats, avocat principal de François Fillon. François Fillon condamné à 5 ans de prison, dont de ferme, 375 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité. Son épouse, Pénélope Fillon, a été condamnée également, ainsi que son suppléant, Marc Joulot. Bien, vous contestez ce jugement. Les époux Fillon font appel, Marc Joulot aussi.
Oui.
Vous faites appel. Pourquoi faites-vous appel?
C'est un appel général. Tout le monde a fait appel.
Oui.
Immédiatement.
Oui.
Sans même une seconde d'hésitation. Parce que le jugement n'est pas juste. Voilà, le terme est fort et je sais qu'il peut choquer. Mais
quand on fait appel, on estime que le jugement n'est pas juste. Hein.
Non, on peut estimer parfois qu'il est trop sévère. On peut estimer qu'il n'est pas correct. On peut estimer qu'il est un petit peu dur. Là, on estime qu'il n'est pas juste. Voilà, on estime qu'il n'est pas juste en fait et en droit. Et c'est les deux raisons qui poussent les époux Fillon à faire appel.
Alors, il n'est pas juste pourquoi?
Il n'est pas juste pour la première raison principale, et ça c'est... Pardonnez-moi, on ne peut pas se refaire, c'est le juriste qui parle. Le tribunal indique, pour justifier cette peine, que Madame Fillon n'a pas su justifier la réalité de son travail. Alors, la manière dont ça fonctionne en droit, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le tribunal aurait dû relever les éléments présentés par l'accusation qui l'ont convaincu de la fictivité du travail et non pas le fait que Madame Fillon n'a pas réussi à prouver son innocence. Ça revient à inverser la charge de la preuve, ce qui est d'autant plus difficile quand vous devez juger des faits de 1998, de 2000, de 2001, de 2002, où en fait concrètement, ça devient absolument impossible de juger les choses. On en vient dans le jugement à avoir une sorte de, un moment de travail qui relève quasiment du cloche-merle, où la juge prend les éléments pour la fille de Monsieur Fillon, Marie, elle les prend jour par jour en disant bon bah là on a regardé dans les emails, on a trouvé des éléments pour certains mois, bah, y en a un autre on n'a pas trouvé, donc on va dire que c'est fictif. On parle de faits, Monsieur Bourdin, qui datent de 2005. De 2005.
Alors, je regarde ce que dit le tribunal. Pour le tribunal, les contrats d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon auprès de son mari, puis de Marc Joulot entre 98 et 2013, n'avaient aucune consistance et ne répondaient à aucun besoin.
Oui.
C'est ce que dit le tribunal. Le tribunal considère que la rémunération de Pénélope Fillon absorbait le maximum possible et était sans proportion avec ses activités. Rien n'aurait pu justifier la rémunération perçue, insiste la présidente du tribunal.
Exactement. Et juste au-dessus, pour être tout à fait complet, ce qu'indique le tribunal, et c'est là qu'on voit en réalité, je pense, le raisonnement et la manière dont le tribunal a raisonné, c'est que François Fillon est accusé d'avoir organisé, mis en place un système pour rémunérer son épouse et sa famille. Ce que ne dit pas le tribunal, alors que pourtant on l'avait incité à le faire, et la question qu'il ne s'est pas posée, parce qu'il n'a pas voulu se la poser, c'est que en 1981, lorsque François Fillon embauche son épouse, ils sont plus de 60% des députés à embaucher un membre de leur famille. Lorsque...
Non mais ça, c'est une raison.
Attendez, si vous me laissez juste terminer...
Allez-y.
Lorsqu'en 2013, il met fin au contrat, ils sont 25%, un quart, il y a encore quelques années, à embaucher un membre de leur famille. Mmh. Et le tribunal n'a pas voulu regarder la manière dont un parlementaire travaille avec un membre de sa famille. Le tribunal s'étonne que quand vous travaillez avec un proche, on ne puisse pas trouver, d'abord, toujours de traces écrites, alors qu'on en a produites. Le tribunal considère que c'est insuffisant, c'est une chose, mais ces traces, elles existent. Et pardonnez-moi, mais quand vous travaillez avec quelqu'un que vous voyez tous les jours, en effet, les traces écrites ne sont pas les mêmes. Et deuxième point, le tribunal n'a pas voulu comprendre, et là-dessus a refusé de se poser la question, la substance du travail d'un collaborateur parlementaire. Quand le tribunal dit juste en dessous, Madame Fillon recevait les doléances des administrés, Madame Fillon faisait le lien avec la circonscription, Madame Fillon pouvait s'occuper du courrier, mais dans une manière qui n'a pas convaincu le tribunal, il s'étonne concrètement qu'elle ne travaille pas à ce qui, pour elle, est le travail du député, c'est l'élaboration de la loi. Et ça, c'est inexact. Le travail d'un député, ce n'est pas seulement et heureusement, l'élaboration de la loi. Ça fait depuis le début qu'on demande, qu'on regarde et qu'on analyse ce qu'est un collaborateur parlementaire pour pouvoir juger le travail de Mme Fillon. Et c'est ce qu'a refusé, une fois encore, de faire le tribunal.
Bien, Maître Lévy, restez avec nous. Il est 7h43. Nous allons continuer à parler de ce jugement. 7h43, vous êtes sur RMC. RMC Découverte, à tout de suite.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct. Bien, Maître Lévy, avocat de Antonin Lévy, avocat de François Fillon est avec nous. Maître Antonin Lévy, 1 156 000 euros détournés de l'Assemblée nationale. C'est ce que rappelle le tribunal. Détournés par François Fillon.
Oui, c'est la conséquence, conséquence du jugement qui a été rendu. À nouveau, comme la question de la peine, oui, en réalité, fait qu'on aura un nouveau procès, moi je suis
persuadé. Dans un an, hein, pas avant un an. Hein.
Oh, vous savez, maintenant, je me méfie de tout. Je ne fais plus aucun pronostic sur les délais dans ce dossier. J'ai été suffisamment surpris et suffisamment déçu. Donc,
De la vitesse
avec laquelle... Non, pas de la vitesse, du traitement de défaveur. La vitesse, c'est autre chose. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la vitesse, en ces cas-là, soit la même pour tous. La justice.
Jérôme Cahuzac, c'est allé vite aussi. Hein.
La justice devrait toujours être rapide. Oui. Vous savez, moi, j'ai d'autres dossiers où vous avez des personnes qui sont dans des accidents industriels, qui vivent depuis 12 ans avec des procédures au-dessus de la tête sans que les juges ne daignent ouvrir leur dossier. Moi, j'aimerais que tout le monde ait droit à la même rapidité, à la même célérité, aux mêmes moyens et que pour tous ces dossiers qui sont les dossiers de l'ombre qui font les 99,9% de notre justice, on puisse avoir les mêmes moyens et la même envie d'y aller.
Est-ce que la justice s'est trompée ?
La justice s'est trompée, oui. La justice.
Vraiment, vous le dites ce matin, la justice s'est trompée.
On a un droit d'appel parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Il ne s'agit pas de critiquer ou de remettre en cause la décision de justice. Le droit d'appel, c'est qu'on a le droit de considérer que trois magistrats se sont trompés. Trois magistrats qui disent que François Fillon organise l'emploi familial en ne voyant pas qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, c'est la règle, c'est faux. Voilà, ils se sont trompés. Et c'est le devoir de l'appel de venir reprendre ça à nouveau. Trois magistrats qui, alors que le procureur de la République financier qui a ouvert cette enquête, dénonce les pressions dont elle a fait l'objet, ne le mentionne même pas, ça n'existe pas dans leur décision, et décide d'enfermer, de mettre une chape de plomb sur cet élément fondamental. Oui, la justice s'est trompée, et c'est pour ça qu'on a un droit d'appel.
Est-ce que les affaires, je vais vous poser une question plus large, est-ce que les affaires qui concernent les politiques sont traitées sous la subordination au pouvoir en place ?
La question que vous posez, je vais vous dire, je suis pas celui qui va y répondre, parce qu'on a une commission d'enquête parlementaire qui a été lancée.
Justement.
Exact. Donc la question se pose. Elle est posée. Elle est posée parce qu'on constate, dans ces dossiers politiques, un traitement qui est anormal, un traitement qui est surprenant. On parle du dossier Fillon, parlons également du dossier de Nicolas Sarkozy. On voit qu'on n'hésite pas dans ces dossiers à placer les avocats sur écoute, à les géolocaliser, à analyser leurs factures téléphoniques pour voir quels sont les contacts. Est-ce qu'on imagine seulement la même chose avec des magistrats ? Est-ce que l'institution judiciaire a la même défiance en interne dans son propre corps qu'elle ne l'a à l'égard de la défense ? On a, oui, dans ces dossiers, un traitement d'exception. Et quand la justice devient une justice d'exception, je crois souvent qu'elle perd le sens commun.
Merci, Maître Antonin Lévy. Il est 7h49, 8h-10. Nous sommes avec Nicolas Poincaré. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Jean-Jacques.
Alors, il y a plusieurs analyses. J'entends beaucoup d'analystes politiques depuis dimanche soir, depuis ce second tour des municipales, qui nous disent forte poussée verte et tout. Je relativise tout cela. Pourquoi ? Parce qu'il faut regarder la réalité des chiffres. Quelle est-elle ? D'abord, une abstention extrêmement forte. Donc ça relativise déjà les victoires. Ensuite, victoire écologiste, oui, mais dans des grandes villes, dans des très grandes villes même. Parce que si l'on regarde bien, dans les campagnes ou dans les villes moyennes, il n'y a pas de poussée verte ou très peu de poussée verte. En fait, il y a trois grands perdants. D'abord, La République En Marche, c'est une bérésina, c'est une débâcle. Ensuite, La France Insoumise qui a totalement disparu. Et puis le Rassemblement National qui a perdu la moitié de ses élus. Il faut aussi le dire. Il y a Perpignan, mais il y a tout le reste. Bon. Une fois que cela est dit, parlons des grandes villes, justement. Et dans les grandes villes, les Verts ont gagné dans des villes riches. Je vais vous donner les villes. Strasbourg, Bordeaux, Tours, Poitiers, Annecy et d'autres. Nicolas.
Exactement.
Avec des inconnus.
Ah, voilà. Et alors c'est pour ça que ça valait le coup d'y revenir ce matin.
Bien sûr.
Parce qu'on les connaît pas, ces nouveaux maires des très très grandes villes de France. Vous l'avez dit, Strasbourg, Lyon, Bordeaux. Alors commençons par le maire de Lyon, le nouveau maire de Lyon. Je vous fais les présentations. Il s'appelle Grégory Doucet. Il n'a jamais eu aucun mandat. Les membres de son équipe et déjà une partie des Lyonnais parlent de lui en l'appelant Greg.
alors que personne n'avait jamais pensé à appeler Gérard Collomb GG. Tout ça pour dire qu'il prend un fauteuil qui a toujours été occupé par des notables, des hommes de réseau, des animaux politiques d'Edouard Herriot à Gérard Collomb, en passant par Raymond Barre et Michel Noir. Il y a du changement avec Greg dans la capitale des Gaules, comme un petit air de révolution. D'abord, le nouveau maire de Lyon n'est pas lyonnais. Il a grandi en Île-de-France, aux Ulis. Jusqu'à présent, c'était un travailleur humanitaire. Il a été expatrié 4 ans aux Philippines, 2 ans au Népal. C'est pour dire qu'il connaît l'extrême pauvreté et l'enfer sur terre que sont les bidonvilles de Manille. Il est venu à Lyon parce que, justement, c'est le siège d'Handicap International où il a travaillé. Il a été longtemps directeur des opérations en Afrique pour cette organisation. C'est à Lyon qu'il a adhéré à Europe Écologie Les Verts en pensant très vite que son parti pouvait conquérir la mairie. Il était le seul à y croire à ce moment-là. Eh bien, à 46 ans, il vient de gagner son pari.
Et le nouveau maire de Bordeaux, Pierre Urmic, lui n'est pas un néophyte en politique. Hein.
Non, au contraire, lui, c'est un persévérant, puisque il s'est présenté pour la première fois à la mairie de Bordeaux en 1995 et à toutes les municipales suivantes. 4 échecs avant ce succès inattendu. Alain Juppé, l'ancien maire, l'appelait le ver de service. Et il le prenait d'ailleurs un peu de haut, mais il est vrai qu'Alain Juppé prend tout le monde un peu de haut. À 65 ans, c'est un avocat qui a défendu Noël Mamère, José Bové et les faucheurs de Culture OGM. Il a aussi défendu le chanteur Bertrand Cantat. Il veut réduire la place de la voiture à Bordeaux. Il veut aussi obtenir un moratoire sur l'implantation des antennes relais pour les téléphones 5G. Son adversaire, Philippe Poutou, vous savez, l'ancien candidat à la présidence de la République, NPA, l'appelle le catho-basque et le traite de bourgeois. Et il répond calmement qu'effectivement, il est basque, il est catholique et il est bourgeois. C'est en fait un homme très convenable, mais en même temps un véritable militant écolo qui va donc diriger une des villes les plus conservatrices de France, puisque Bordeaux était à droite depuis l'après-guerre. Depuis
Lyon, ville riche et conservatrice. Bordeaux, ville riche et conservatrice. Strasbourg, ville riche et conservatrice. Et Besançon et Poitiers, 3 femmes là, ont créé la surprise.
Alors à Strasbourg, elle s'appelle Jeanne Berseguian. Elle n'était pas favorite du tout. Elle a 39 ans. C'est une spécialiste du droit de l'environnement. Elle est conseillère en écologie à la région et à la métropole. Elle connaît bien les dossiers écolo. Elle parle l'allemand et l'arménien. Et le soir de la victoire, elle a présenté aux militants son compagnon qui, justement, est un Allemand. La ville de Strasbourg, qui est une des capitales européennes, va donc être dirigée par un couple franco-allemand. Non, par une Française, mais mariée à un Allemand.
Il y a Besançon.
Alors, elle s'appelle Anne Vigneault, elle a 60 ans, sera la première femme à diriger la ville. C'est une fille d'ouvrier. Elle a grandi dans une cité à Dole. Elle a fait toute sa carrière au CNRS en empruntant l'ascenseur social, puisqu'elle a commencé comme technicienne avant de devenir ingénieure, puis présidente d'un grand parc régional. C'est donc une scientifique écolo. Dans la vie, elle a un vélo, mais elle n'a pas de voiture.
À Poitiers.
Léonore Monconduit, ce sera elle aussi la première femme maire de cette ville. Elle vient tout juste d'avoir 30 ans. Elle a forcément un parcours un peu court, vu son âge, mais un parcours marqué par l'engagement. C'est une ancienne scout unioniste protestante. Elle a fait son service civique, elle a fait Erasmus en Italie, Sciences Po à Paris, et en apprenant son élection, elle a réagi comme les gens de son âge. Elle a dit « C'est un truc de ouf !»
Bien, et dans cette série de victoire écologiste, Marseille est un cas un peu à part.
Alors là, qu'on ne sait pas qui sera élu samedi prochain maire de Marseille. Michel Rubirola est arrivé largement en tête, mais elle n'a pas de majorité absolue. Sa victoire n'est pas acquise. Un cas à part aussi parce qu'elle a été exclue d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'elle a préféré se présenter sur une liste d'Union de la Gauche. Les écolos peuvent donc difficilement revendiquer cette victoire. Mais si elle devait l'emporter, eh bien c'est une femme qui a un très fort caractère, qui prendrait le bureau de Jean-Claude Gaudin sur le Vieux-Port. C'est une médecin, petite fille d'immigrés italiens et espagnols, une fille de communiste, elle est issue des quartiers nord et elle a travaillé toute sa vie comme médecin spécialiste de la prévention dans ces quartiers populaires. C'est une féministe militante associative, aussi préoccupée par le social que par le climat. Voilà. En gros, le portrait, c'est 7 ou 8 nouveaux venus en politique.
Voilà, et on ne peut pas, donc, je reviens à ce que je disais en préliminaire, on ne peut pas vraiment parler d'une vague verte. Moi, je veux bien, il y a une forte poussée de la conscience écologiste. Mais attention, attention, parce que ces grandes villes masquent tout le reste. Et il y a aussi d'autres villes qui ont été gagnées, Annecy, Tours, Colombes.
Annecy, grosse surprise, avec 27 voix d'avance,
c'est une énorme surprise.
Tours, où une jeune femme bat le maire sortant. Colombes, en région parisienne.
Non, à Tours, c'est pas une jeune femme, c'est un homme qui gagne. à Tours.
Pardonnez-moi, je confondais.
Oui, oui, c'est un homme.
Poitiers, mais
oui, oui. C'est un homme qui bat le maire sortant.
Exactement.
Le maire sortant, Christophe Boucher, l'ancien président de l'OM d'ailleurs.
N'oublions pas Grenoble, que les écologistes détiennent déjà. Vous avez raison, ce sont des grandes villes, mais si on prend les Alpes, là où Croix-Claire est pur et il n'est pas toujours pur, eh bien on a effectivement Grenoble, Annecy, Lyon, plus Genève en Suisse qui vient de passer aux écolos. Il y a quand même toutes les grandes villes de la région Rhône-Alpes et au-delà de la frontière qui sont maintenant.
Bien, merci beaucoup. Merci, les 7h56. Nous sommes avec Pierre, qui est en Côte d'Or. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez
merci à vous de me donner la parole, surtout parce que ça fait plaisir un petit peu de pouvoir parler au nom des salles de sport qui ne sont pas beaucoup représentées.
C'est vrai.
Ce début de difficultés économiques pour nous. Et ce matin, quand j'ai entendu qu'il y avait une petite chronique sur le sujet, mais j'étais très intéressé. Qu'elles sont rares. Et j'étais très déçu ensuite par ce qui a été dit, parce que il faut savoir d'abord que le fitness, d'une manière générale, c'est pas une activité très rémunérative. Hein. Il y a une blague qui circule dans notre métier. Savez-vous comment on devient millionnaire dans le fitness? En commençant milliardaire.
Hein. Ouais,
donc, on va pas là-dedans pour faire de l'argent. Moi, j'étais dans la grande distribution avant. S'il avait fallu, j'aurais mieux fait de rester pour gagner de l'argent. C'est pas le sujet. Ce qui m'a embêté un petit peu, c'est que systématiquement on dit aux gens, de toute façon vous pouvez faire du sport dehors. C'est un petit peu gênant pour nous, effectivement. Les gens sont très frileux à reprendre, ils ont peur. Et le gouvernement a pris un décret spécifique par rapport à ce Covid qui nous autorise non pas à rembourser nos adhérents que malheureusement on voit plus depuis 3 mois, mais à leur proposer un avoir. Parce que le gouvernement est bien conscient de toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc je voulais rétablir quand même cette petite vérité, parce que
il
est dit tout à l'heure par Marie Dupin que les salles devaient rembourser, que certains pas très bien intentionnés avaient prélevé leurs adhérents. Effectivement, on a été obligés, parce qu'on a des difficultés économiques vraiment très importantes, et c'est pas par plaisir, on leur a proposé effectivement un remboursement dans le temps, pour nous vous permettre de faire ça.
Un remboursement dans le temps, et puis un avoir, hein, c'est le mieux.
Donc le décret du 6 mai nous permet de le faire, donc c'est un petit peu dommage de dire que c'était obligatoire de nous rembourser.
Bon.
J'ai par ailleurs, moi, dans mon activité, j'ai un restaurant à côté. On parle beaucoup des restaurants, et tant mieux, parce que c'est une profession qui est bien organisée, et Dieu sait qu'ils ont souffert, et nous aussi on a souffert. Je peux vous dire que depuis le début juin où on a pu rouvrir, les problèmes de restaurant, c'est une blague à côté du fitness, quoi. C'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, en tous les cas, le chiffre d'affaires est revenu assez rapidement. On n'a pas vraiment de grosses difficultés. En revanche, le fitness, dans les mois à venir,
ça va être très, très dur. On y reviendra. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Au revoir, Pierre. 7h59. Vous êtes sur RMC. Au revoir, Pierre.
On va revenir juste après le journal sur le débranchement de Fessenheim. Hier soir, Jean-Marc Jancovici, ingénieur consultant en énergie, en climat, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h10 sur RMC.
RMC.